biodiversité, agriculture biologique, environnement, zéro déchet, développement durable. Vous souhaitez communiquer, partager vos actions, parler de vos projets sur l'antenne de Radio Alpementcel 106.3 FM.
Juste pour que ça dure.
Mon Bio Écomag vous informe sur différentes initiatives et expériences en faveur de l'environnement et du développement durable sur notre territoire.
Juste pour que ça dure.
Contactez le 02 43 33 24 56, le 02 43 33 15 15.
Juste pour que ça dure.
Écoutez Radio Alpementcel sur le 106.3 FM, votre radio associative en territoire Haute-Sarthe-Alpementcel. Consultez son site internet et rejoignez-nous sur la page Facebook de Radio Alpementcel.
En France, nous consommons chaque année près de 40 000 tonnes d'escargots, dont 80% au moins proviennent de l'implantation et sont transformés par l'industrie. Il arrive ainsi sur les tables françaises un produit n'offrant pas toutes les garanties sanitaires et malheureusement totalement dénaturé par un excès de cuisson, d'ail et de sel. Je vous propose donc de partir direction Saint-Marc-sur-Ballon afin de faire la rencontre d'Hugues Milot, éleveur et lissicole sartois. Monsieur Milot, bonjour.
Bonjour.
Je vous invite à commencer notre échange en vous présentant personnellement ainsi que votre parcours jusqu'ici.
Écoutez, moi je suis lissiculteur avec mon épouse, hein, on est vraiment en couple sur l'activité, depuis 2010. Donc là, nous attaquons, on va dire, notre 14e saison d'élevage et de transformation avec la récolte là qui se termine courant octobre. Donc on s'est installé à Saint-Marc-sur-Ballon il y a une vingtaine d'années, initialement avec un projet de commercial en vin et champagne, parce que c'était une chose que je pratiquais auparavant, et donc mon épouse et moi-même sommes tous les deux diplômés de l'hôtellerie-restauration. Donc on a un parcours, on va dire, cuisine et gestion hôtelière de une quinzaine d'années chacun. Alors on est arrivé dans la Sarthe avec un autre projet, et puis au cours des années, finalement, bah voilà, les choses se sont faites progressivement, et on nous demande souvent pourquoi l'escargot. Bon, c'est pas une passion à la base. On cherchait une activité qui puisse mettre en valeur, utiliser, on va dire, les surfaces dont on disposait. On n'avait pas non plus des hectares et des hectares. Mettre en pratique notre expérience et nos connaissances. Donc c'est le côté agricole qui était le plus nouveau pour nous. Donc j'ai obtenu par dérogation un BPEA pour faire une installation jeune agriculteur en de février 2010. Et puis à partir de là, on a lancé l'activité création totale, puisque rien n'existait sur la commune ni pratiquement sur le département. Donc on a créé et l'activité et géré la demande, puisqu'on on a généré une clientèle au fur et à mesure du temps.
Vous avez la main sur toute la chaîne de production, de l'œuf à l'assiette, ce qui apporte une traçabilité complète. Alors parlez-nous de votre activité en commençant de l'œuf, justement, jusqu'à nos assiettes.
Alors, on va me démarrer avant l'œuf, puisque pour avoir l'œuf, il faut donc qu'on ait des reproducteurs. Donc les reproducteurs sont issus de notre élevage, donc en fait, fin septembre, on fait une sélection dans nos parcs des plus beaux spécimens, donc c'est à l'œil, hein, simplement. Donc par expérience, on connaît les escargots qui sont donc matures, adultes, prêts à se reproduire et qui seront aptes à donner un beau nombre d'œufs l'année suivante. Donc on les sélectionne, on en sélectionne comme ça entre 10 et 15 000. Qu'on va hiberner donc dans un frigo en fait, hein, tout simplement, puisque toute l'activité en fait, qu'elle soit extérieure ou intérieure pour la ponte, respecte en fait suit le cycle naturel de l'escargot. Donc nos escargots sont hibernés, puisque naturellement dans la nature les escargots hibernent l'hiver. Donc là nous on fait une hibernation idéale dans des conditions d'humidité et de température dans un très gros caisson frigorifique. Nos escargots reproducteurs sont réveillés fin février. Là, on les installe dans un tunnel où on reconstitue les conditions de vie optimales, donc lumière, température, humidité. Donc on les réveille un petit peu hors saison, puisque là, normalement, l'hiver, il fait encore trop froid pour les avoir à l'état sauvage. Donc on les réveille, ils vont reprendre de l'activité, se nourrir, finir de s'accoupler pour ceux qui ne l'auraient pas fait encore à la fin de l'automne. Et puis, courant avril, là, on va installer des pondoirs, tout simplement, parce que l'escargot a besoin de terre pour pondre. Et la partie reproduction est pour nous la seule qui a lieu hors sol. Tout le reste se fait naturellement en extérieur. Là, comme il faut travailler désaisonné durant les températures trop froides pour l'activité normale, donc là, l'escargot est sur les tables, sont sur les tables et vont pouvoir s'activer, entre guillemets un peu artificiellement, jusqu'à ce qu'on leur mette des alvéoles de terre dans lesquelles ils vont les pondre. Chaque escargot va pondre entre 100 et 150 œufs, sachant que les escargots sont hermaphrodites, donc et mâles et femelles. Donc chaque escargot potentiellement peut pondre. Donc si on fait le calcul, 10 000 escargots, une centaine d'œufs par escargot, on arrive sur 1 million d'œufs potentiellement, ce qui n'est pas le cas puisqu'on fait la reproduction sur une assez courte période de 5-6 semaines. Donc tous n'auront pas eu l'occasion de pondre. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est de récupérer environ 500 000, entre 5 et 600 000 pontes pour alimenter nos parcs. Donc les pontes, donc on lui, je vous disais, mi-avril, il y a une quinzaine de jours d'incubation, et à partir de la mi-mai, on va récupérer les petits escargots, donc tout petits, qui font environ 5 mm de diamètre, et on va les lâcher dans nos parcs, qui ont été préalablement labourés, semés, donc là en colza, enfin diverses variétés de plantes qui leur donnent tout ce qu'il faut pendant le premier mois de croissance, où ils sont exclusivement nourris avec ce qu'on aura semé et ce qui aura poussé dans les parcs. Et ensuite, on complète l'alimentation avec des granulés, des céréales tout simplement, majorité blé et maïs concassés et un peu de sel minéraux. Et puis la croissance va se poursuivre en parc extérieur, donc avec les aléas climatiques, hein, les gros coups de chaud, les coups de froid, les grosses pluies. Et nous, on fait vraiment que protéger, et on donne les conditions idéales, et là, donc, ils vont grandir jusqu'à la fin août, mi-septembre, mi-octobre, là, ça va être la nature qui donne la durée réelle de croissance. À partir de là, on va les ramasser, donc tout se fait manuellement. Donc, on a à peu près 5 à 7 tonnes d'escargots à ramasser normalement dans 5 parcs, puisqu'on met 500 000 petits, 100 000 par parc, avec une perte d'environ 200 000, parce qu'il y a pas mal de causes, on en reparlera plus tard, et donc on ramasse manuellement pendant plusieurs semaines tous nos escargots. Pour le coup, on sélectionne les reproducteurs pour l'année suivante, et le reste va être également hiberné pour avoir notre stock pour l'année. Et on va partir de là pour entamer les processus de transformation.
Et pour cela, vous êtes que deux ?
On n'est que deux à plein temps, oui, tout à fait. On essaye de prendre un peu de main-d'œuvre saisonnière pour le ramassage, quand on en trouve. Et puis, il nous arrive aussi, alors pour le travail au laboratoire, de se faire aider aussi avec une embauche à court terme, de courte durée, au moment du coup de feu avant les fêtes. Puisque là, évidemment, le gros de l'activité pour les particuliers se situe entre septembre et décembre, avec un pic énorme pour les commandes de fin d'année, sur décembre. Puisqu'on va faire 60% de notre chiffre d'affaires sur le mois de décembre, et 50% de ces 60% se font sur les 15 derniers jours de décembre. Donc là, effectivement, le reste de l'année, on a toujours une vente aux particuliers, mais on alimente surtout les restaurants, puisque c'est là notre voie de développement. On fournit une quarantaine de restaurants dans la Sarthe et en région, jusque région parisienne. Et donc voilà, on essaye de développer cette piste-là, puisque c'est celle qui, d'abord, c'est notre formation, donc on connaît bien les besoins que sont ceux des restaurants. Et puis, ça nous permet d'avoir un linéaire plus régulier sur l'année, puisque les restaurants commandent beaucoup plus régulièrement avec leurs cartes et leurs transformations à eux et leurs recettes à eux, que les particuliers qui gardent quand même l'idée que l'escargot est un produit de fin d'année, de Noël, de table de Noël. Donc on a des clients qu'on ne verra qu'une fois par an pour Noël. Et alors que voilà, les restaurants eux, vont travailler le produit de différentes manières tout au long de l'année.
Donc vous nous parliez du pourcentage de pertes que vous avez chaque année. Quelles en sont les principales causes ?
Écoutez, alors l'escargot n'a que des prédateurs, que ce soit déjà des prédateurs ou des risques. Donc la première chose, donc les conditions météo, tout simplement. Hein, donc quand l'escargot vient d'être lâché, il est tout petit, donc très fragile. Là, un excès de chaleur, une grosse pluie, peut les noyer. Un grand coup de chaud peut les faire sécher sur place, on va dire. Les prédateurs, là, ça va être beaucoup de rongeurs. À commencer par les musaraignes. Il faut savoir qu'une musaraigne, bon, c'est pas bien gros, hein, ça fait 4-5 cm. Et quand les escargots, nous aussi, sont petits, une musaraigne peut en manger jusqu'à 3000 en une nuit. ce qui est énorme. Donc là, voilà, à moins de suivre voilà, on a quelques chats, on a des traitements, enfin des suivis de dératisation à l'année, mais bon, il y a là, il y a forcément une partie qui disparaît à ce moment-là. Et au fur et à mesure de la croissance, les risques évoluent. Donc au fur et à mesure du temps, plus l'escargot grossit, plus le rongeur qui va craindre va grossir, donc c'est plus les rats ensuite qui vont être les prédateurs assez embêtants, parce que difficile à éradiquer, et selon les années, on peut avoir des pertes plus ou moins importantes avec les rats qui prélèvent pas mal d'animaux dans les parcs. Donc là, c'est une des causes. Après, on va avoir des risques d'insectes qui vont, selon les années, s'il y a beaucoup trop de chaleur et d'humidité réunies, on développe des variétés d'insectes qui vont être des prédateurs, qui vont venir se nourrir de la bave de l'escargot, donc les dessécher. Après, beaucoup d'oiseaux, mais pour ça, nous, on est en parc fileté, donc nos tunnels sont des grands tunnels en filet, non pas en bâche. Donc on n'a aucune protection au niveau des pluies, par contre on a une protection pour la grêle et pour les oiseaux. Et là on est protégé à 100%, parce que sinon les oiseaux, voilà, que ce soit les merles, les geais, les étourneaux, les chouettes, les pies, enfin bon voilà, tout le monde apprécie l'escargot. Donc on arrive à protéger au maximum.
Et quelle espèce d'escargot élevez-vous au sein de votre exploitation ?
Oui, c'est vrai qu'il faut commencer par dire ça. Donc nous, on élève exclusivement le gros gris, donc qui est un cousin germain du petit gris. À l'origine, le petit gris est un escargot qui était déjà consommé par les Romains, et durant leur campagne militaire en Afrique, l'histoire, alors c'est pas vraiment une légende, c'est l'histoire qu'ils racontent, ils transportent leurs escargots dans des grandes jarres pour les consommer, et durant leur campagne d'Afrique, apparemment, beaucoup de ces escargots se seraient échappés. Et au fur et à mesure du temps, il y a une mutation génétique naturelle qui s'est effectuée et le petit gris est devenu gros gris sous des latitudes et des météos un peu plus favorables. Donc l'escargot a grossi, ce qui fait qu'il a à peu près la taille du Bourgogne, mais il devient plus fragile. Donc c'est l'escargot qui est idéal pour être élevé parce qu'on a du volume par rapport au petit gris qui est tout petit. On a la saveur du petit gris, la taille du gros gris, du Bourgogne, pardon, mais avec une fragilité, ce qui fait qu'il craint le gel, à la différence de ses congénères sauvages, qui eux vont résister à des températures très très basses. Donc ça nous oblige à travailler en période hors gel. Donc en gros de mai à fin octobre-novembre, alors c'est vrai qu'on a des années qui sont beaucoup plus douces depuis quelques temps, mais globalement voilà, on doit travailler avec sécurité entre ces périodes de gel, parce que l'escargot gris ne se protège pas, donc il va mourir à moins 1, moins 2 degrés sur ses planches. Donc là, on ne peut pas se permettre de perdre une récolte complète, sachant qu'on n'a qu'un cycle d'élevage, comme vous l'avez compris, par an. Hein. Donc toute la récolte qu'on va faire à l'automne doit nous tenir en stock pour la production jusqu'à la fin de l'été suivant. On est vraiment sur une nécessité de réussite chaque année.
Et pourquoi cette espèce bien spécifique ? Pourquoi pas l'escargot de Bourgogne, comme vous venez de nous le citer ?
Alors, le Bourgogne est un escargot exclusivement sauvage qui ne supporte très mal la surpopulation. C'est un escargot qui, voilà, ça s'amuse un peu, mais qui stresse en fait, et qui en grande quantité va mourir. Alors ça c'est la première raison. La deuxième c'est que son taux de reproduction est assez faible, puisqu'il fait qu'une soixantaine d'œufs par an, et sa croissance est lente. Donc de toute façon, il faudrait en plus au moins 2 années, voire 3, pour arriver à un escargot à maturité. Or là, nous, l'escargot se fait en une saison. Non pas qu'on le gave ou qu'on le force, simplement on lui donne les conditions de vie optimales. À l'état sauvage, un escargot va alterner des périodes d'activité et d'estivation quand il fait trop chaud l'été et d'hibernation d'hiver quand il fait trop froid. Donc il va grandir et croître et se nourrir uniquement dans les périodes de douceur et d'humidité. Ce qui fait qu'un escargot à l'état sauvage, pardon, va mettre 3 à 4 ans à devenir adulte. Même si on mettait un gros gris dans des conditions de température idéale, il mettrait 3 à 4 ans à devenir adulte. Parce que justement, il va s'interrompre régulièrement. Nous, entre mai et octobre, les températures sont douces, on humidifie les parcs si jamais il n'y a pas assez d'humidité naturelle, on nourrit, et les températures sont bonnes. Donc l'escargot, toutes les nuits, va sortir, toutes les nuits, va manger, toutes les nuits et toute la journée, va grandir. L'escargot est nocturne, donc il mange la nuit, il grandit le jour, à l'abri du soleil, mais à la douceur. Donc il va en 3 mois, 3-4 mois, arriver à la même croissance que ce qu'il aurait fait à l'état sauvage en 3 ans. Ce qui nous permet de travailler sur un été, et non pas d'avoir à remettre en hibernation et à remettre en parc au fur et à mesure des années pour avoir un escargot consommable. Donc le Bourgogne se heurte à ça également. Donc le gros gris est le compromis idéal.
Donc des escargots que vous proposez cuisinés, mais sous quelle forme ?
Alors, on a deux produits principaux. D'abord, les chairs cuites juste au courbouillon, donc telles qu'on va les retrouver après dans les préparations, dans toutes les préparations, l'escargot est cuit au courbouillon auparavant. Donc juste cuit au vin blanc, assez neutre, pour bien retrouver le goût d'escargot. Et c'est ce qu'on va vendre en majorité à toute la restauration. Tous les chefs vont travailler ce produit-là pour eux, justement, après apporter leur touche et l'inclure dans des recettes à eux. Et puis, pour le particulier principalement, parce que la demande est là, on travaille essentiellement l'escargot au beurre persillé, donc dit à la bourguignonne, donc qu'on va remettre en coquille. Donc cette même chair courbouillonnée, on fait un beurre persillé maison, donc à base exclusivement de produits frais, de beurre des Charentes, ail, échalote et une petite pointe d'Armagnac. C'est la recette qu'on a figée depuis 14 ans, qui est validée par tous les restaurateurs et chefs qui ont pu la goûter. Donc là, elle est dans le marbre, on n'y touche pas, et on décline cette recette-là en profiterole. Donc nous, c'est des petits choux non sucrés, non salés, qui sont neutres, et même recette, donc le beurre persillé. Donc c'est une recette plutôt apéritive, qui va permettre de consommer l'escargot été comme hiver, au bord de la piscine ou au coin de la cheminée, au choix. Mais voilà, c'est une formule qui plaît. Et finalement, on a concentré notre production sur ces trois grandes directions-là. Il nous arrive de faire ponctuellement d'autres recettes, mais c'est vraiment anecdotique. Simplement aussi parce qu'on a l'agrément européen en laboratoire depuis 2015. Ces aires vétérinaires ont validé notre production, notre chaîne de production, notre plan de maîtrise sanitaire, d'hygiène, etc. Donc on est contrôlé et validé à ce niveau-là, ce qui nous permet de vendre où on veut, quand on veut, à travers la France. Hein, on peut expédier où on veut. Mais par contre, il faut donc valider ces recettes par des analyses qui sont assez onéreuses. Donc multiplier les recettes, c'est multiplier les analyses. Et donc là, on arrive sur des intérêts économiques qui ne sont pas forcément valables.
On peut peut-être insister auprès de nos auditeurs sur le fait que vous avez à cœur d'élever et de proposer des escargots sans OMG grâce à une alimentation contrôlée, mais également par le choix des ingrédients entrant dans l'élaboration de vos recettes.
Tout à fait. Alors, effectivement, on n'a pas fait le choix du bio, simplement parce que notre type d'élevage, on va dire, naturel, simplement, il suit la nature. Donc, à part l'arrosage et ce qu'il y a au sol, nous, on n'a aucun apport phytosanitaire, donc pas de produits dans le sol, pas de produits sur l'animal. Le seul apport, ça va être effectivement l'aliment, qui, lui, n'est pas un aliment bio, parce qu'on est sur des considérations aussi financières. Et là, on est sur un aliment, effectivement, alors garanti sans OGM. C'est vrai qu'avec les contraintes Covid des années passées, la production en OGM, je crois, a été un peu plus compliquée au niveau des producteurs d'aliments, parce que les filières avaient un petit peu bousculé. Donc là, on retourne, c'est vrai, maintenant sur les produits beaucoup plus assurés sans OGM. Voilà, c'est un produit donc naturel, ce qui permet d'avoir un coût de production relativement raisonnable quand même. Et le problème du bio aussi, c'est que il faudrait également inclure dans toutes nos recettes un beurre bio, persil bio, etc. Donc là, également des coûts élevés, donc au final un prix de vente élevé. Et nous, on veut travailler en frais et pas en produits déshydratés. Et la plupart des producteurs qui font des produits bio en escargot sont obligés de travailler des ail déshydratés, persil déshydratés. Et nous, c'est pas notre choix. On veut vraiment un produit frais. Donc on a fait ce choix et voilà, je pense que c'est un bon compromis, ce qui permet de vendre un produit nettement plus cher qu'un produit de grande distribution industrielle. Ça veut dire qu'on essaie de situer, nous, un petit peu comme un poulet de louer. C'est-à-dire qu'on est sur un escargot fermier, parce que toute la chaîne se fait à la ferme, mais qui reste le plus abordable possible, malgré des conjonctures un peu compliquées. Donc voilà, je crois qu'on a trouvé l'équilibre. Voilà, on espère que les conditions économiques vont nous permettre de continuer et de pouvoir satisfaire le plus grand nombre dans cette optique-là.
Mais justement, il faut compter combien, à peu près?
Alors aujourd'hui, il faut compter 8 euros la douzaine en beurre persillé prêt à mettre au four. Hein, donc c'est un produit qui est vendu soit frais avec une conservation de 4 jours qu'on peut congeler. Tous nos produits étant exclusivement à base de produits frais, tous peuvent être congelés, ça faut bien le rappeler. Et la congélation pour l'escargot se fait très bien et ne dénature pas du tout le produit. On invite vraiment les clients à anticiper leurs commandes, notamment pour les fêtes, parce qu'on a un gros rush, comme vous disiez tout à l'heure, au moment de décembre. Et à un moment donné, nous, on arrête les prises de commandes parce qu'on peut pas fournir. On peut pas, le temps de préparer, c'est plus possible. Donc, on invite vraiment les clients dès la mi-novembre à passer leurs commandes, à récupérer leurs produits et à congeler 3 semaines à 1 mois, sachant que l'escargot peut se congeler jusqu'à 1 an. Sans perte de goût ni de qualité. Donc voilà, c'est l'avantage. Et puis donc la chair au courbouillon, elle, pour les particuliers, est à 5 euros la douzaine, donc nature, sous vide. Quand on propose nos produits sous vide, donc il y a un petit surplus au niveau du prix par rapport aux emballages, mais là on peut garder en frais jusqu'à 18 jours, date de fabrication. Donc ça donne un peu de souplesse. Mais sincèrement, voilà, on invite vraiment tout le monde à oser la congélation avec escargot. Beaucoup de nos clients le savent, et même certains achètent déjà en surgelé directement, parce qu'on en fait un petit peu aussi directement. Et voilà, c'est vraiment une bonne solution pour satisfaire tout le monde.
Vous proposez la vente de vos escargots et de vos préparations fraîches directement à la ferme, ainsi que sur les marchés de la Sarthe, que je vous invite à nous indiquer.
Alors, effectivement, on fait la vente à la ferme, mais nous n'avons pas de magasin, donc c'est de la vente sur rendez-vous exclusivement pour des retraits de commandes, généralement en fin de semaine, du jeudi au samedi. Les marchés, la vente sur marché hebdomadaire a pratiquement disparu. On en a fait beaucoup, effectivement, mais là, pour des raisons de temps et d'organisation, on ne fait plus de marché hebdomadaire. On a gardé quelques gros événements. Donc, le prochain, ça va être le 1er décembre, enfin, le week-end du 1er décembre, c'est le salon de la gastronomie au parc des expositions du Mans. Donc là, traditionnellement, pendant 3 jours, on expose et on vend à nos clients habitués, de plus en plus nombreux. On sera également présent sur le marché de Noël de la Place de la République. Donc là, il y a un stand qui revend nos produits au prix de la ferme. Donc ça, j'insiste aussi. C'est la plupart des magasins qui revendent nos produits sont au prix de la ferme. Donc le stand qui sera présent tout le mois de décembre à Place de la République vendra nos produits à ce prix-là. On a également la ferme Naturellement, qui existait auparavant en septembre, Place de la Rep également, et décalée au mois de mai. Et puis sinon, tout au cours de l'année, ça va être les magasins fermiers qui vont proposer nos produits. Donc là, nous avons le magasin Chèvrefeuille, à la Chapelle Saint-Aubin, les Halles de la Godine, au rond-point de Coulaines, le local des producteurs au Mans, les fermes de la Genvrie, à Souillé. Voilà, on a des magasins qui vendent nos produits, la charcuterie de bar également, qui est présente sur les marchés. Voilà, ça vend nos produits au fil de l'année, permet de pouvoir les reprendre autrement qu'à la ferme.
Avant de nous quitter, je vous invite à nous rappeler vos contacts pour nos auditeurs qui souhaiteraient vous contacter pour de possibles commandes.
Le plus simple, donc vous avez le numéro de téléphone, donc le 02 43 24 36 30, donc là vous tomberez directement sur nous. Le site internet, donc www.escargot-du-men.com, là vous allez avoir des informations générales sur l'activité. On est en train de le remettre à jour, parce qu'on prend toujours un peu de retard. Donc on aura des tarifs, et par contre aucune prise de commande directement par le site, il n'y a pas de vente en ligne, donc on invite il y a une messagerie effectivement qu'on consulte, mais on invite vraiment les clients soit à nous téléphoner, soit également à nous contacter sur notre adresse mail, là qui est escargot.du.men@orange.fr. Et puis on est présent aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc là c'est une de nos filles qui suit les contacts.
Monsieur Milou, je vous remercie pour votre intervention sur notre antenne et je vous souhaite une agréable journée et au plaisir de vous retrouver à nouveau prochainement.
Eh bien écoutez, merci à vous.